s'il n'y a pas de plan, n'exclut pas, effectivement, de fermer l'entreprise.
Libre chez nous. On propose ce slogan-là.
Je suis là parce que je suis nationaliste. C'est le Québec d'abord et avant tout.
Bonne fin de journée, tout le monde. À 3 mois moins 2 jours de l'élection provinciale, bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les partis s'activent vraiment de plus en plus sur le terrain. Publicité partisane, nouveaux slogans et des annonces de candidatures en série. On va en parler d'ailleurs avec notre collaborateur Victor Henriquez dans un moment. Mais d'abord, bien, c'est justement lors de l'annonce d'une candidature vedette ce matin à Repentigny que François Legault a été questionné sur le dossier des émissions d'arsenic de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Louis-Philippe Bourdeau a assisté à ce point de presse. Salut Louis-Philippe.
Salut Michel.
François Legault qui semble avoir décidé, en fait, de mettre la fonderie au pas et là menace carrément de la fermer si la pollution ne diminue pas.
C'est la première fois, Michel, que le premier ministre est aussi clair. La fonderie devra fournir un plan détaillé, ambitieux de réduction de ses émissions d'arsenic, sans quoi, bien, toutes les possibilités, toutes les options sont sur la table, y compris celle que tu as mentionnée, la fermeture complète de l'usine, 650 emplois donc à Rouyn-Noranda. Je te rappelle, hein, l'usine qui émet 33 fois plus d'arsenic que ce qui est permis par les normes québécoises, ça a des impacts sur la santé publique dans la région. On a questionné le premier ministre, mais c'est quoi une norme acceptable pour cette entreprise? Eh bien, le premier ministre, aujourd'hui, n'a pas voulu réagir. Il a renvoyé la balle à son directeur national de santé publique, qui, d'ailleurs, est de passage en Abitibi ce soir et demain. Par contre, ce qu'a dit le premier ministre aujourd'hui, bien, notre gouvernement est prêt à investir, à aider financièrement l'entreprise dans la transition, mais il y aura des conditions.
Est-ce qu'on peut donner une aide qui serait inférieure aux retombées? Il y a une ouverture de ce côté-là, mais c'est clair que l'entreprise va devoir investir des montants importants. Là, on parle de centaines de millions de dollars pour atteindre un niveau où la santé des citoyens n'est pas remise en question.
Michel, le syndicat des travailleurs n'a pas voulu réagir. Aujourd'hui, on m'a dit au téléphone qu'on absorbait cette information. Pas de réponse non plus de l'entreprise. Par contre, le porte-parole de Québec solidaire, donc Gabriel Nadeau-Dubois, qui a réagi parce que c'est dans la circonscription solidaire que se trouve la fonderie. Il écrit ceci, et c'est un ton assez hargneux. Il dit « Alors que la pression monte, le premier ministre évoque la fermeture de l'entreprise. Il a laissé la situation dégénérer pendant des années. Bien, à 3 mois des élections, il lance en l'air des scénarios catastrophes. C'est pitoyable. »
Un dossier à suivre dès demain, d'ailleurs, avec le passage de Dr Boileau. Mais en effet, ça sent pas mal la campagne électorale. D'ailleurs, les déclarations du premier ministre ont eu lieu ce matin lors d'un point de presse où il présentait une nouvelle candidate, hein, une journaliste connue, une fédéraliste qui avait tenté sa chance, d'ailleurs, chez les conservateurs.
Ouais, Pascale Derry, qu'on a connue, en effet, comme journaliste à TVA, qui a été candidate pour le Parti conservateur du Canada lors de l'ère Stephen Harper. Ça n'avait pas fonctionné jusqu'à tout récemment. Bien, elle était porte-parole d'Air Canada au Québec, notamment durant cette crise de l'unilinguisme chez Air Canada. Par le passé, elle a été très critique du modèle des CPE au Québec contre les subventions aux entreprises privées. Donc, a-t-elle vraiment sa place à la Coalition Avenir Québec? On lui a posé la question.
Moi, je pense que c'est pas un saut incompatible. Au contraire, ça a vraiment une certaine cohérence avec tout mon parcours professionnel, mon parcours académique aussi. Et les gens qui me connaissent savent très bien que je n'ai rien d'opportuniste. Si je voulais revenir en politique, j'aurais pu le faire il y a plusieurs années. C'est une coalition, donc il y a bien sûr des gens comme M. Drainville, comme moi, comme d'autres, et on va partager justement nos opinions, et c'est le but.
Et Michel, Mme Derry, qui a évité toute question sur le PDG d'Air Canada, mais dit aujourd'hui se ranger à 100 % derrière la loi 96.
Oui, bien, on va y revenir d'ailleurs. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Je poursuis avec notre collaborateur expert en relations publiques, Victor Henriquez. Bonsoir, Victor.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que tu penses de la candidature de Pascale Derry qui, on le disait, a tenté sa chance chez les conservateurs, qui, là, se lance avec la CAQ, puis qui a dit qu'il y avait une seule priorité, si j'ai bien compris, c'était de se faire élire?
Prendre un petit peu plus de substance pour se faire élire, mais il faut rappeler que Repentigny, c'est un comté caquiste qui a voté à 50 % pour la CAQ. Alors, elle revient en politique dans un siège extrêmement confortable, celui d'un comté sûr. Alors, elle disait, j'aurais pu revenir à n'importe quel moment. Je dirais que revenir dans un confort comme celui-là...
Quelques tentatives avant.
Exactement, quand même. Alors, et le confort d'un comté sûr est important. Ce lien entre le Parti conservateur du Canada et la CAQ existe. On l'a vu, rappelons-nous, M. Legault avait appuyé le Parti conservateur du Canada à la dernière élection. Donc, c'est un vase communicant. Et là, tout le monde devient devient nationaliste, ce nationalisme rassembleur qui réunit fédéralistes et souverainistes. Donc, cette image de coalition qui est protégée par la présence de Pascal Desrées.
Je me posais la question parce que avec la candidature donc d'une fédéraliste, quelques semaines après la candidature d'un ancien souverainiste devenu nationaliste, ou en tout cas qui a toujours été nationaliste, Bernard Drainville, est-ce que justement, avec ces deux candidatures-là, François Legault ne vient pas renforcer le concept de coalition? Parce que la CAQ, c'est ça, c'est une coalition.
Tout à fait. Puis c'est extrêmement important pour lui parce qu'avec Bernard Drainville, on est allé littéralement du côté des souverainistes Parti québécois. Là, on a besoin de trouver un équilibre. On va avec une fédéraliste, puis il y en aura probablement d'autres. Mm-hmm. C'est ça, la force de la CAQ, c'est d'aller trouver cet équilibre entre souverainistes et fédéralistes.
Parlons de la question du bilinguisme dans les grandes sociétés. Hein. À la question, avez-vous tenté d'empêcher le PDG d'Air Canada de faire un discours uniquement en anglais? Question qui a été posée à Pascal Desrées par un journaliste. Elle a évité la question, disant qu'elle allait défendre la langue française. Est-ce que ça va la suivre, ça?
Je pense que oui, ça va la suivre pendant un certain temps. Surtout, ses opposants à Repentigny vont bien profiter de la situation pour tenter de la coincer. Mais on va se le dire, Pascal Desrées ne sera pas une candidate à envergure nationale durant toute la campagne. Aujourd'hui, on couvre son annonce. C'est une annonce quand même importante, mais on est en plein milieu de l'été. Mais je ne pense pas qu'on entende parler quotidiennement ou même une fois par semaine de Pascal Desrées candidate au mois de septembre pendant l'élection, ce qui fait que ça va diminuer la pression sur elle quand même sur ce sujet-là.
On va entendre parler des candidats dans les circonscriptions que la CAQ veut soit sécuriser ou veut aller chercher. Bon, pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, il y a un autre parti, le parti d'Éric Duhaime, qui a présenté son nouveau slogan, on va voir, « Libre chez nous ». Une référence au « Maître chez nous » de Jean Lesage. Sur le plan communicationnel, t'en penses quoi?
Alors, ce qui est particulier, c'est que pendant que les libéraux cherchent à trouver une nouvelle identité, Éric Duhaime recycle une identité libérale avec le maître chez nous, recyclé en libre chez nous. Et pour moi, ça me démontre clairement que le premier public cible d'Éric Duhaime, c'est les libéraux déçus. Il va littéralement chercher chez ces gens-là. Il veut également bénéficier de toute cette question de liberté individuelle. On en a parlé beaucoup pendant la pandémie. Donc, on se rappelle que le Parti conservateur du Québec a vu sa popularité monter grâce à la vague contre les mesures sanitaires. Il se rattache à ça. Je pense qu'il assume beaucoup ces questions de liberté individuelle. Maintenant, ça viendra avec des questions. Qu'est-ce qu'on fait sur la laïcité? Est-ce qu'il y a liberté individuelle ou pas? Les candidats qui sont contre l'avortement, est-ce que ça va poser des questions? Il devra justifier, justement, cette question de liberté individuelle devra se poursuivre au courant de la campagne.
Parce qu'en ce moment, dans les intentions de vote, dans les différents sondages, ça va assez bien pour lui. Mais là, ça va se corser quand la campagne va commencer. Il faudra voir si ses intentions de vote vont se concrétiser. Là, le 3 octobre, c'est pas gagné, ça.
Non, c'est pas gagné. Puis c'est parce qu'on peut diviser le vote à 20 %. On ne va pas nécessairement gagner des comtés.
Victor, merci beaucoup. On s'en reparle très bientôt. Ça commence bientôt, hein, visiblement, cette campagne-là. Merci. La COVID-19, maintenant, parlons-en, elle frappe fort au Québec. La santé publique rapporte 20 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures. Mais c'est vraiment le bilan qui a été présenté par la presse ce matin qui est assez frappant. Écoutez, dans les 6 premiers mois de 2022, le Québec a enregistré plus de morts liées à la COVID-19 que pendant toute l'année 2021. On fait le point avec Dr Nathalie Granvaux, chercheuse sur les infections virales au CHUM. Bonsoir, Dr Granvaux.
Bonsoir.
Depuis le 1er janvier, donc 3741 Québécois sont morts de la COVID. Qu'est-ce qui explique ce bilan? Est-ce que c'est essentiellement la levée des mesures sanitaires?
Pas seulement. Je pense que il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est l'arrivée du variant Omicron qui était beaucoup plus transmissible que ce qu'on a connu avant. Et tous les variants suivants sont encore plus transmissibles. Alors, même si notre vulnérabilité globale est plus basse, parce qu'on est protégé beaucoup par les vaccins, le fait que beaucoup plus de gens l'aient attrapé, ben on se retrouve avec plus de gens qui ont des complications, des hospitalisations et des décès, malheureusement.
Mais sommes-nous vraiment davantage protégés avec nos vaccins, avec ces variants-là qui sont de plus en plus contagieux? On a l'impression que nos vaccins ne donnent pas grand-chose.
Non, les vaccins, si on n'avait pas eu les vaccins et qu'on avait eu la vague Omicron, on aurait comparé nos décès avec ce qu'il y avait eu en 2020 et on se serait certainement rendu compte, toutes les données le montrent, que les vaccins protègent contre les formes sévères et les hospitalisations et les décès, même contre les variants actuels. Ça a un petit peu baissé par rapport au virus original, mais on est encore très bien protégé quand on est à jour dans ces vaccinations.
Bon, ça, c'est la clé, être à jour. Tous les indicateurs sont en hausse, nouveaux cas, hospitalisations, décès. Est-ce que vous, quand vous regardez ça, est-ce que vous êtes prête à dire qu'on est rendu dans cette septième vague ou c'est pas encore arrivé?
Je pense qu'il va falloir s'habituer à arrêter aussi de parler de vagues. Je pense que le virus, il est là à peu près constamment, avec des hausses et des baisses, dépendant du variant qui nous arrive dessus. Je pense que maintenant, c'est ça qui fait... Quand on nous dit de vivre avec, il faut se préparer à ce qu'il soit constamment là et prendre des précautions en fonction des hausses qu'on voit. Donc, en ce moment, on a une remontée de la transmission. Donc, il faut remettre en place, au niveau individuel, un certain nombre de pratiques pour se protéger, parce que c'est vraiment une mauvaise idée d'être infecté par le virus.
Oui, et est-ce que vous pensez qu'on devrait également ramener des mesures populationnelles ou pour l'instant, ça devrait être individuel?
Je pense qu'on ne veut pas se retourner à des mesures populationnelles. Je pense que, par contre, ce qui aiderait beaucoup, c'est d'avoir un plan sur la ventilation, l'amélioration de la qualité de l'air. Mais on ne veut pas retourner en arrière. Donc, il faut donner les moyens aux personnes d'utiliser des mesures individuelles pour se protéger.
Bon, en terminant, il reste 20 secondes. La quatrième dose, on la prend tout de suite ou on attend? C'est vraiment la question que vous faites poser souvent, hein?
Pour les plus de 60 ans, puis les personnes vulnérables, absolument. Pour les autres, je pense que ça dépend de nos circonstances, si on a eu la COVID récemment ou pas, puis de qui on fréquente, si on a des personnes vulnérables autour de nous. Je pense que ça, on peut chacun évaluer si c'est le moment d'aller la chercher. Mais aller chercher la troisième dose, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore.
Ça, c'est un incontournable. Merci beaucoup, Dr. Granvaux, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, le CRTC, demande que Radio-Canada s'excuse publiquement après qu'un chroniqueur radio ait cité à 4 reprises dans une même chronique le titre de l'œuvre phare de Pierre Vallière qui comprend le mot en haine. Mot qui, faut le rappeler, a une charge extrêmement négative pour les membres des communautés noires. C'est un mot blessant, c'est une insulte carrément. Il s'agit, et je vais pour justement ces raisons le nommer qu'une seule fois ce soir, le livre « Nègre blanc d'Amérique ». Une 50aine d'animateurs et de journalistes de Radio-Canada sont sortis publiquement pour contester cette décision du CRTC, tout comme la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. On en discute d'ailleurs avec son président, Michael Nguyen, qui est avec nous. Bonsoir, Michael.
Bonsoir.
Alors, pour la FPJQ, cette décision-là du CRTC est clairement dangereuse. Expliquez-nous ce qui est dangereux dans cette décision-là.
Bon, en fait, c'est dangereux parce que c'est un précédent qui vient bannir un mot. Bannir un mot dans peu importe le contexte, peu importe pourquoi il est utilisé, et selon nous, la liberté journalistique nous permet d'utiliser le mot. Il faut le rappeler, l'Ombudsman de Radio-Canada avait lui-même rendu une décision qui disait que Radio-Canada n'avait pas erré en rendant en utilisant le titre de l'œuvre parce que c'était le sujet de la chronique. Ouais. Donc pour nous, c'est important de le contester parce que ce n'est pas au CRTC de décider du contenu éditorial que doivent faire les médias.
C'est un dossier extrêmement délicat, la question du mot en haine. Il n'y a pas de consensus sur l'utilisation de ce mot, même au sein des communautés dont les membres se sentent blessés quand on utilise ce mot-là. Dans quel contexte? Mais en fait, est-ce qu'il y a un contexte dans lequel le mot en haine devrait toujours être interdit?
On ne pense pas parce que c'est toujours une question de contexte, comme vous l'avez dit. Puis je comprends qu'à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des messages de 160 caractères, c'est difficile de contextualiser. Tout va vite, on lit vite, mais c'est important de prendre un pas de recul pour essayer de comprendre pourquoi. C'est un mot qui existe, qui fait partie de l'histoire. Il ne faut pas l'utiliser. Il y a déjà des lois par rapport au discours haineux. L'utiliser à des fins insultantes, évidemment que ça doit être proscrit. Mais l'utiliser dans un contexte bien précis pour informer, ça fait partie de la liberté journalistique.
Et la répétition, par exemple, le fait que ce mot-là ait été dit plusieurs fois en quelques minutes, est-ce que c'est quelque chose avec lequel qui vous accroche ou...
C'est certain qu'on voit que le CRTC a pris en considération que ça avait été répété 4 fois en 6 minutes. Mm-hmm. Donc, c'est certain.
Ça devient un facteur aggravant.
Ça devient, pour eux, comme vous le dites, un facteur aggravant. Cependant, il y a des raisons.
Les signataires de la lettre affirment que le CRTC interprète de manière complètement abusive son pouvoir d'intervention. Alors, on vous pose la question, est-ce que le CRTC a dépassé vraiment son mandat? C'est ce que vous pensez?
Oui, tout à fait, parce qu'il s'ingère dans le contenu éditorial, au choix éditorial. Leur rôle n'est pas de faire ça. Leur but, c'est de respecter, il ne faut pas l'oublier aussi, la liberté d'expression journalistique dans un contexte d'information. Donc, c'est pour ça que la FPJQ fait partie des signataires pour dire qu'il faut contester la décision, aller en révision judiciaire à la Cour supérieure et éventuellement à la Cour suprême.
Donc, ce seront les prochaines étapes. Il faudra voir ce que la suite des choses. Vous comptez intervenir si vous avez l'occasion de le faire dans ces processus-là?
Bien sûr que oui, parce qu'il faut le rappeler, la Cour suprême l'a dit, il n'existe pas le droit de ne pas être offensé. Donc la liberté d'expression, selon nous, nous permet d'utiliser le mot dans un contexte bien précis.
Michael Nguyen, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération des professionnels des journalistes du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On en reparle parce que c'est un dossier, bien sûr, qui va se poursuivre, dossier chaud. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Une autre décision qui fait couler beaucoup d'encre, c'est celle d'un juge qui a accordé le mois dernier une absolution conditionnelle à un ingénieur de 30 ans de Trois-Rivières qui a plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle et de voyeurisme. Simon Hull a agressé une femme alors qu'elle était en état d'ébriété. L'homme a demandé l'absolution parce qu'il devait voyager dans le cadre de son travail, ce qui lui a été accordé d'ailleurs. Mais devant le tollé de cette décision, bien, son employeur l'a renvoyé aujourd'hui. Il y a le DPCP qui a annoncé qu'il allait porter la décision du juge en appel. Les utilisateurs ont déserté le transport en commun pendant la pandémie. Malgré le retrait du port du masque à la mi-juin, l'achalandage dans le métro et les autobus de Montréal, vous l'avez peut-être remarqué, toujours pas revenu à ce qu'il était il y a un peu plus de deux ans, en fait. J'en parle avec ma collègue Sabrina Rivet. Salut, Sabrina.
Salut, Michel.
Tu as obtenu des données de la STM qui montrent, en fait, que les usagers se bousculent toujours pas aux portes du métro et des autobus en ce moment.
Non, effectivement. Et je te parle d'ailleurs en direct des rues Sainte-Catherine et Cartier, donc en plein cœur du centre-ville de Montréal, à quelques pas à peine de la station Papineau. Et on peut sentir ici qu'il y a quand même quelques personnes, mais c'est bien loin de ce qu'on vivait il y a un petit peu plus de deux ans avant la pandémie. Et justement, d'ailleurs, bien, je vais vous les présenter, ces données-là. On peut justement aller voir un tableau. Par exemple, j'ai sorti la semaine du 27 juin 2022. On était à un petit peu plus de 642 000, 900 000 déplacements par jour durant cette semaine-là. Ça représente environ 60% à peine du volume qui était avant la pandémie. Si on regarde par la suite à pareille date, en 2021, bien, on était à 42% de l'achalandage avant pandémie. Et en juin 2020, bien, on était à 38%, mais là, il faut dire qu'on était en plein cœur de la pandémie. Donc, on peut constater que ça augmente quand même légèrement, mais on est bien loin de l'achalandage qu'on avait dans les métros et également les autobus de la ville de Montréal. Et justement, bon, on peut aller écouter certaines personnes que j'ai rencontrées un petit peu plus tôt aujourd'hui du côté de la station du métro Laurier sur le plateau Mont-Royal pour leur demander si leurs habitudes de transport en commun avaient changé au cours des dernières années.
Visiblement, il semble y avoir moins de monde à Berry, en tout cas. Ça semble moins achalandé que ça ne l'était avant.
Pas beaucoup depuis la COVID. Plus, je fais plus comme tout à pied ici.
Je prends toujours beaucoup le métro.
Ouais. Pourquoi pour vous c'est plus facile?
J'ai pas de voiture. Je me déplace constamment sur le plateau Montréal.
Avec la pandémie, j'ai appris à être comme plus dehors. J'apprécie plus ça. Fait que le transport actif, ça m'intéresse plus maintenant.
Moins de transport en commun.
Moins de transport en commun, mais pas plus d'auto pour autant. Là. Ah.
Il y a peut-être une exception. La fin de semaine du Grand Prix, c'était assez bondé par moments dans le métro. Ouais. Mais en général, dis-moi, qu'est-ce qui explique que les usagers semblent bouder le transport en commun encore?
Bien, c'est sûr que pour l'instant, on peut penser au télétravail notamment, mais c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce qu'on va être en mesure de retourner à l'achalandage avant pandémie? J'en ai parlé avec un professeur de l'Université Concordia. On peut l'écouter.
On va probablement voir une augmentation plus importante pendant l'automne, parce que c'est là, effectivement, qu'on a la plus haute demande en transport. Et du coup, avec l'augmentation de la demande, il y aura plus de circulation, ça va être plus long en auto, les gens vont plus probablement décider d'aller en transport en commun un peu plus.
Merci beaucoup, Sabrina.
Fait plaisir, bonne soirée.
La Banque du Canada a annoncé hier ses intentions d'augmenter le taux directeur de 75 points au cours des prochains jours, ce qui engendre à nouveau des craintes que ça provoque une récession. Mais comment peut-on affirmer qu'un pays ou qu'une province est en récession? Il y a ma collègue Émilie Clavel qui répond à cette question.
On entend de plus en plus parler de la possibilité que le Canada entre en récession. Mais c'est quoi exactement une récession et surtout, quel impact ça peut avoir sur le Québécois moyen? La définition d'une récession, elle varie un petit peu d'un pays à l'autre. Au Canada, on s'entend pour dire qu'on est en récession quand le produit intérieur brut réel diminue pendant deux trimestres consécutifs.
Grosso modo, une récession, c'est une baisse d'activité économique. Donc, il y a moins d'emplois, il y a moins de production, il y a moins de ventes chez les détaillants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui baisse par rapport à un certain niveau. Donc, c'est vraiment un recul de l'activité. Ça peut avoir des effets aussi sur les placements boursiers. La bourse tombe normalement avant et pendant la récession.
Si on exclut la très courte récession qui a eu lieu pendant le grand confinement de 2020, le Canada a connu 5 épisodes de récession depuis 1970.
Plusieurs facteurs qui peuvent provoquer une récession. un choc économique, une bulle financière qui éclate. 2008-2009, c'était ça, la récession de 2008-2009. Donc, c'est la bulle immobilière aux États-Unis qui a éclaté, qui a provoqué des problèmes ces marchés financiers, qui a provoqué la récession. D'autres récessions des années 80, c'est vraiment des hausses de taux d'intérêt surtout. Années 80-90, donc des fortes hausses de taux d'intérêt pour combattre l'inflation qui ont provoqué ces récessions-là.
Sans dire qu'elle est inévitable, la plupart des économistes s'entendent pour dire qu'une récession est de plus en plus probable au Canada dans les prochains mois.
Pourquoi on craint plus une récession présentement? C'est vraiment, on sait que autant aux États-Unis qu'au Canada, d'autres pays dans le monde commencent à monter les taux d'intérêt parce qu'on a une inflation très élevée. Premièrement, cette inflation-là élevée gruge les revenus. Donc, déjà là, c'est déjà un problème pour les ménages, pour les entreprises. Mais si en plus, pour combattre cette inflation-là, on doit monter beaucoup les taux d'intérêt, mais ça fait en sorte que le marché immobilier va ralentir, il y a moins d'emprunts pour financer différents projets, ça fait ralentir l'économie. Si l'économie ralentit trop, bien, il y a un risque de tomber en récession. On sait que les entreprises vont surtout couper les postes vacants, donc les postes qui n'ont pas encore trouvé quelqu'un. Et si la récession est de plus en plus profonde, elle fait de plus en plus mal, là, ils vont commencer à couper des emplois ou du moins moins embaucher. Mais c'est vrai qu'on a généralement une récession, on ne le vit pas en contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est plutôt rare.
Heureusement, une récession, ça dure généralement pas des années. Celle de 2008-2009, par exemple, s'était résorbée en à peine 3 trimestres.
Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Michel.
Les 30 pays membres de l'OTAN ont lancé le processus là, pour intégrer la Suède et la Finlande.
Oui, ça s'est fait aujourd'hui lors d'une cérémonie à Bruxelles. Faut dire également que le Canada, ça a été le premier pays à avoir ratifié l'accord d'intégration. Puis ensuite, tous les autres l'ont fait. Mais il faut dire quand même que ça pourrait prendre plusieurs années avant vraiment une accession officielle. La Turquie, qui était réfractaire à cette adhésion-là des deux pays, finalement a accepté aujourd'hui après des négociations.
Bon, alors, c'est à suivre dans les prochains mois, années. Il y a des élus qui ont décidé d'annuler une séance de comptes pour enfants parce que, dans le fond, ces comptes-là étaient lus par Barbada, qui est une drag queen.
Exactement. Ça se passe dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal. Il y avait 2 séances de comptes qui étaient prévues dans des bibliothèques là, de la ville de Montréal. C'est un arrondissement qui est sous la bannière de l'ancien parti de Denis Coderre. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, Valérie Plante en a profité pour dénoncer cette décision-là. Donc, ces spectacles ont été annulés. Et ce soir, aux 22h, on reçoit la principale intéressée, Barbada, qui est sous les traits de Sébastien Potvin, qui va être avec nous à l'émission.
Intéressant. On regarde ça ce soir à 22h. Merci, Étienne. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve demain, dès 17h30.